7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue sur RFI, 7 milliards de voisins, à la découverte des assiettes des voisins aujourd'hui. Marine Mandrella, Louis Martin, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes un couple de jeunes Français, vous êtes partis à 24 ans faire le tour du monde culinaire chez l'habitant, du Pérou à la Chine, en passant par le Liban ou l'Inde. Vous publiez Very Food Trip pendant 6 mois, donc vous avez goûté à tout ou presque, y compris le serpent frit, me semble-t-il.
Exactement.
Et vous avez passé beaucoup de temps, surtout dans les cuisines et les arrière-cuisines des familles qui vous ont fait découvrir leur culture à travers leurs meilleurs plats, avec énormément d'enthousiasme, j'ai l'impression.
Avec un enthousiasme incroyable, une générosité et un accueil absolument incroyable auquel on ne s'attendait pas.
On dit cuisine, les portes s'ouvrent, c'est ça ?
C'est vrai, et c'est vrai, et on l'a vérifié.
Et à ce point-là, on ne pouvait pas l'imaginer ?
Non, pas du tout. On a eu plusieurs difficultés, on vous racontera, mais globalement, ça a été incroyable.
Vous êtes en direct, en tout cas chez 7 milliards de voisins, l'occasion pour vous, les voisins et les voisines, de poser toutes vos questions à Marine et Louis, ou bien de nous faire découvrir, pourquoi pas, un plat de chez vous, parce que vous n'êtes pas allé sur le continent africain.
Non, malheureusement, il a fallu faire des choix, et on n'a pas été en Afrique, mais ce sera pour la prochaine saison.
C'est ça, 10 pays déjà, il y a de quoi faire pour notre émission. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, où que vous soyez dans le monde, au 331 84 22 71 71. Message également sur Facebook, Twitter, et puis en fin d'émission, reportage à Dakar sur un tout autre sujet, dans une usine de karité, portrait de Mamra Didienne, une femme industrielle qui exporte des produits cosmétiques made in Sénégal aux États-Unis, en Europe, avec derrière elle un vrai savoir-faire et 4000 femmes ramasseuses de karité. Allez, je vous lis quelques commentaires culinaires, parce que dès qu'on annonce cuisine, il y a beaucoup de témoignages. Fa Kinshasa, en République démocratique du Congo. Moi, j'aime le pondou Yamadesu Naloso. Je ne sais pas si je prononce bien. Excusez-moi, femme. C'est de la feuille de manioc préparée avec des haricots. Ouais, on est en Afrique centrale. Le tout mangé avec du riz, accompagné de poissons salés de Norvège. On importe quand même. Franck Ayaoundé, faites donc un tour au Cameroun. Vous découvrirez le fameux ndolé. Oui, ça, c'est connu. Légumes verts, donc camerounais, accompagné de bâtons de manioc chez les doigts. Voilà, le fameux bongo ou sauce noire, c'est-à-dire sauce aux écorces brûlées accompagnée de macabo, qui est une tubercule que vous découvrirez chez les bassa, le fameux okok aussi accompagné de manioc que vous découvrirez chez les étonnes, ou encore le fameux nkui. Il est précis, hein, sauce d'écorce assaisonnée qui se prépare à la main sans aller au feu et généralement accompagnée de couscous de maïs chez les bamileke. Il y a de quoi faire encore, hein, pour votre prochain tour d'assiette. Eric à Porto Novo, je vous invite au Bénin de mon côté pour vous proposer des recettes délicieuses comme le crabe au piron rouge, un grand crabe de la région bouilli avec un mélange de gari, semoule de manioc, tomates et épices. Bah ouais, ça va nous donner faim tout ça. Ou encore Babette à Abidjan nous dit, moi je suis pas du tout une aventurière culinaire, quand je voyage je ne mange que ce que je connais mais je veux un jour goûter au fameux tagine des Marocains ou Tunisiens, ou goûter au plat mauritanien cuisiné dans la terre dont j'ai vu des images à la télé. Ça vous met les papilles en éveil déjà?
Oh oui, surtout qu'il est midi et on fait faim.
Pour la première diffusion de l'émission, appelez-nous en direct pour nous faire partager ses savoir-faire, et puis on en discute avec Marie et Louis. 10 pays sillonnés, alors pas que dans les capitales, hein, en fin fond des villages, et puis surtout au fin fond des arrière-cuisines.
Beaucoup dans les campagnes et tout le temps dans les cuisines.
Ouais, mais c'est là qu'on trouve les meilleurs produits finalement.
Exactement,
aussi, hein, dans les campagnes.
Accès aux produits frais, aux potagers directement.
33 1 84 22 71 71. Marine Mandrella, Louis Martin, pourquoi finalement vous avez décidé de voyager à travers les fourneaux des voisins et des voisines du monde ?
En fait, on avait cette envie hyper forte de partir découvrir le monde et surtout d'aller au plus proche des gens, chez les gens, et de voyager vraiment au plus proche des locaux. Et en fait, la cuisine, c'est installé très vite dans nos imaginaires, dans nos têtes. Et
Étiez déjà un peu cuisinière vous-même.
Oui, bien sûr. Moi, j'adore cuisiner. Louis aussi. On a toujours beaucoup cuisiné ensemble. Et c'est vrai que tous nos précédents voyages qu'on avait fait ensemble, on avait toujours été guidés par les marchés, les cuisines, les plats des gens qu'on rencontrait au cours de nos voyages. Et voilà, très naturellement, on s'est dit que la cuisine, c'était l'élément le plus universel à partager.
Alors, évidemment, faut passer du temps. Donc, 10 pays en 6 mois, ça peut sembler peu, mais vous avez passé beaucoup de temps dans certains pays. Mexique, Pérou, Brésil, ça c'est pour l'Amérique, le continent latino. Thaïlande, Japon, Chine, Vietnam, Inde, Népal et Liban. Vous n'avez pas forcément, j'irais chasser dans des terres inconnues culinairement parlant.
Non, c'est vrai qu'on a choisi que des gros pays avec des gros patrimoines culinaires, à l'exception peut-être du Népal, dans lequel on était allé parce que j'avais fait une mission humanitaire il y a 5 ans là-bas, donc on avait envie de retourner dans la famille qui m'avait accueilli et qui cuisinait particulièrement bien et qui était des hôtes exceptionnels. Mais sinon, on a pris que des pays qui éveillent énormément de choses dans notre imaginaire.
Une pensée particulière pour le Népal aujourd'hui, avec cette réplique assez terrible. Vous avez des nouvelles d'ailleurs des familles où vous avez été hébergé, avec qui vous avez cuisiné au Népal?
Bien sûr, heureusement, ils vont tous bien. Et à Katmandou et à Chaogada, qui est un petit village dans le district de Nouakchott. Voilà, ils vont tous bien, même si les conditions sont très difficiles.
La plus grande extase culinaire pendant ces 6 mois, ça serait quoi?
C'est difficile. Moi, personnellement, je crois que c'était dans le sud de la Chine, dans la région de Yangshuo, quand on a passé 3 jours chez Sam, qui devait nous recevoir juste pour passer une nuit dans le cadre de couchsurfing, et on a eu la chance de tomber.
Donc ça, c'est dormir chez l'habitant.
Exactement. On devait juste aller dormir chez lui. On est tombé par hasard sur un passionné de cuisine, qui était un fervent défenseur de la cuisine de Yangshuo, et qui a passé 3 jours à nous apprendre à cuisiner toutes les traditions culinaires de la région de Yangshuo. Et notamment un fameux poisson à la bière, qui est à la fois sain et en même temps avec un goût très relevé, parce que la bière donne une connotation intéressante au goût du poisson. Il y a beaucoup de légumes et qui est absolument délicieux.
Et pour vous, Marine?
Et ce même repas, on a eu l'occasion de déguster une soupe de fleurs de courgettes dont je me souviens
qu'on
avec
cuisine
émotion.
En France, mais en beignet, les fleurs de courgettes.
Oui, absolument.
Hein.
Moi, j'avais jamais
on
mangé.
On retrouve donc des produits, mais préparés complètement différemment.
Exactement.
Le bout de la planète.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que le sud de la Chine, pour ça, est d'une richesse incroyable. C'est beaucoup de produits très frais, qu'on achète tous les matins sur le marché. C'est toujours très très frais,
alors,
très sain.
La soupe de fleurs de courgettes, il y a quoi dedans? À part la fleur qui, j'imagine, dans la soupe, elle est toute ramollie, hein?
La fleur est ramollie, mais on a du bœuf, on a beaucoup d'herbes, des oignons, de l'ail, c'est très parfumé. Et en même temps, la soupe, le bouillon adoucit tout ça. Et la petite touche sucrée de la fleur de courgette, c'est vraiment un délice.
À sa cuisine, on reconnaît l'âme d'un peuple. C'est pas toujours vrai en même temps. Non, je veux dire, il y a des pays où la cuisine n'est pas franchement engageante, avec des habitants pourtant extrêmement accueillants.
Par exemple, dans le nord de la Thaïlande, on a eu l'occasion, dans des communautés karen, de déguster des plats assez surprenants, qu'on a été chassés dans la jungle avec nos amis et hôtes qu'on avait rencontrés, et qui peuvent paraître pour nous très surprenants et assez spectaculaires, comme des insectes, des anguilles de rizière, des araignées, etc. Mais en même temps, on a adoré déguster tout ça, et c'est très étrange pour nous, mais il y a des choses très très bonnes, très très bonnes.
Et puis la cuisine, c'est aussi un alibi pour rencontrer des locaux, dans le sens où si on reprend cet exemple dans le nord de la Thaïlande, pardon, on a passé littéralement 3 jours en cuisine avec nos hôtes. Donc c'est un moment de partage, de discute, de rencontre où on défait et on refait les légendes familiales, les légendes villageoises, les légendes régionales, et où plein de choses se racontent à la fois dans la cuisine avant le repas et ensuite pendant le repas.
Donc, et finalement, devant un fourneau, on est tous pareils.
Exactement.
Avec un couteau pour couper.
Ça met tout le monde à égalité.
Ouais.
Et tout le monde connaît une recette. Tout le monde est fier d'une recette.
Un souvenir de Holker, quand même. Forcément.
De Holker, de moments difficiles.
Oui.
Plusieurs.
Parce qu'il faut. Oui, c'est ça. Il faut pas vexer non plus.
Non, plusieurs. On a eu plusieurs grands moments de solitude face à nos assiettes. On a toujours assuré, je crois.
Donc stoïque.
Ouais. Ouais,
on a toujours fait honneur à nos hôtes.
C'est ça, donc vous avez toujours fini votre assiette.
Ouais.
Donc rien que ça, ça peut être une prouesse. Dans
rien que ça, c'est déjà énorme, je vous assure. Ouais.
Même quand on a eu Marine à goûter un œil de poulet, ce qui n'est pas forcément savoureux, on a eu droit à du sang de serpent avec le cœur du serpent qui battait encore, qui était dans le shot.
Ah oui.
On a eu droit à quelques belles spécialités.
Ça, c'est au
culinaires.
Vietnam, hein, le ça, serpent. Vietnam. Élixir de sang de serpent, peau de serpent frite. Hein.
Exactement. On a rapporté la recette. Donc, si jamais vous voulez la refaire,
bon, les
vous
voisins,
la retrouverez dans
surtout
le livre.
N'hésitez pas à nous téléphoner pour avoir la recette du serpent frit. Une recette vietnamienne. C'est pas en même temps un acte si banal de partager un repas, parce que quand on est touriste, quand on voyage, on mange pas forcément avec les habitants.
Non, c'est vrai, ça permet D'aller directement au contact des populations locales.
Ouais, et d'entrer vraiment dans la culture de l'autre. C'est vrai qu'au cours de nos précédents voyages, on a toujours été manger dans les bouis-bouis, là où les gens mangeaient de la même manière qu'eux, et pas du tout dans les restaurants touristiques, parce que voilà, ça nous permet de pénétrer un élément culturel énorme et extrêmement identitairement très très fort. Mmh. Voilà, une cuisine, ça raconte aussi beaucoup de choses sur l'histoire d'une ville, d'une région, d'un pays.
Qu'est-ce qui avait été décidé entre vous sur le fait que vous étiez du coup invité à partager des repas qui pouvaient être parfois très coûteux pour ces populations-là, vu le niveau de vie ?
En fait, ce qu'on avait décidé de faire dès le début, c'était d'aller faire les courses avec nos hôtes, ce qui nous permettait de régler les courses à ce moment-là.
D'accord, donc un tour au marché.
Exactement.
Et là, vous payez l'addition.
Et là, on paye l'addition.
Et ensuite,
quand on avait le droit. Quand on avait le droit.
Oui. Et ensuite, vous vous mettiez au travail.
Et ensuite, on allait cuisiner ensemble, on mangeait ensemble et on passait les moments après le repas avec nos hôtes.
Vous nous appelez les voisins et les voisines pour nous faire partager, pourquoi pas chez vous, vos meilleures recettes, nous faire découvrir aussi peut-être des choses moins connues, hein, évidemment. Ne nous appelez pas pour nous parler du poulet Yassa. 33 1 84 22 71 71. Encore que, même avec des recettes éculées, on se rend compte que dans votre livre, il y a des choses très peu connues et puis des recettes très connues, mais préparées d'une certaine manière. 33 1 84 22 71 71. On est ensemble chez 7 milliards de voisins en cuisine.
Sur la touche, Jackie. J'reviens les décoder comme un fond de la musique. Bizi, biza, n'en font pas déconner. Plus j'essaye de savoir pourquoi, et moi je les comprends. Plus j'essaye d'écouter ce qu'ils font, et moi je les entends. Leurs punchlines sont débiles, stériles et puériles. Le niveau est si bas, pourtant pensons savoir du style. Alors à qui la faute, ils font de la fast food music. Quelles sont ces maisons de disques qui signent des artistes sur les clics? Tout ça est pathétique, mais où est passé l'artistique? L'industrie est en chute libre, d'après les statistiques. Leur son est si vilain que parfois ils m'effraient. Leur cachet maximum équivaut à mes notes de frais. Veulent tous faire des albums, mais la plupart ne sont pas prêts. Veulent tous jouer les gangs, ça, mais la plupart ne sont pas vrais. Trop de fans dans ma face, trop en face, food music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic, boum dans leur face. Pour mon tir dans le tas, pour si c'est leur meilleur niveau. Ils veulent faire de la monnaie, ils veulent des trophées. Quand des mentants, mais tu ne casses pas des briques. Défonce pas au Viagra devant la mic, ça pas la trique. Pas la peine de mentir au peuple. T'es pas dans le game, t'as pas la dégaine. T'es à la traîne sur scène. Dans ta comptable, sur tu nous salis. Trouve-toi un job au lieu d'user ta salive. Je vois que les colliers sont boycottés, tandis que trop de guignols sont surcotés. Cessez de baisser vos femmes, cessez de vous faire coquer. À peine entré dans l'industrie, je te vois déjà suffoquer. Ne me parle pas de buzz, ne me parle pas de vitesse. Les beat guys et on le blues, les hymnes sont devenus des verseuses. Tout est fake comme ta pseudo-carrière, motherfucker. La fin sera glaciale dans sa poêle comme un fuck. On entend trop.
Neg Marron, fast food music chez 7 milliards de voisins. On est en compagnie de Marine Mandrila, Louis Martin. Vous avez passé 6 mois à sillonner pas tout à fait les 4 coins de la planète, mais tout de même 10 pays dans des villages reculés, vous nous le disiez tout à l'heure, et vous publiez Very Food Trip. C'est un gros bouquin avec beaucoup beaucoup de recettes, et alors des choses évidemment parfaitement inconnues. Vous avez sillonné les marchés, vous avez donc vous-même cuisiné, parfois avec très peu d'espace, parfois dans la rue. Vous avez tout type de cuisine, en fait.
Hein, parfois sous 50 degrés, dans des cuisines très, très peu aérées, ouais, vraiment où il faisait 50, 55 degrés. Parfois en plein milieu de la jungle, avec simplement un feu de bois. Enfin voilà, dans des conditions toujours...
Parfois sur des toits, au milieu des rizières. Ou aussi dans le sud de la Chine, encore une fois, au milieu des pains de sucre sur un rooftop. Donc on a pu cuisiner dans des conditions assez exceptionnelles, assez paradisiaques, mais aussi dans des cuisines toutes simples, toutes vraies.
Avec des cuissons très différentes ou pas, le fait qu'on ait beaucoup de choses à disposition, beaucoup de matériel ou peu, ça change la façon de préparer?
Pas tant que ça, en fait. En Asie, on a quand même beaucoup de cuissons à la vapeur. En Amérique latine, plus de cuissons frites. Mais au niveau des cuissons, on n'a pas tellement découvert de modes de cuisson absolument incroyables, ou en tout cas qui étaient inconnus pour nous. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de recettes qu'on peut refaire à la maison et dont on connaît les savoir-faire.
Oui.
Si ce n'est les produits. Ouais. Alors, on a toujours essayé de trouver des substituts. Au fromage ou aux herbes qu'on peut malheureusement pas trouver en France, pour qu'on puisse quand même malgré tout refaire toutes ces recettes à la maison en France.
Beaucoup de femmes évidemment qui cuisinent.
Beaucoup de femmes.
Dans les pays que vous avez sillonnés.
Dans tous les pays du monde, beaucoup de femmes.
Mais vous étiez quand même admis en cuisine, Louis ?
C'était parfois un peu particulier dans le sens où donc on se filmait, donc on se passait la caméra. Et dans certains pays, quand Marine prenait la caméra et que c'était à mon tour de passer en cuisine, en fait, notre hôte, qui était une femme en cuisine, ne s'adressait plus à moi, s'adressait uniquement à Marine. Donc on se disait, c'est un peu dommage, et donc Marine retournait en cuisine. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes. Sauf, on a eu la chance de tomber dans une communauté Karen, au nord de la Thaïlande. Et on s'est retrouvé à cuisiner uniquement avec des hommes, où les hommes étaient au reine en cuisine. Donc c'est une société matriarcale. Et c'était un peu étonnant. Et là, pour le coup, du coup, j'ai pris un peu ma revanche. Et c'était moi qui étais tout le temps au fourneau et Marine qui tenait la caméra.
Bon, ça tombe bien. On a un voisin qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour, Anani.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, mais vous êtes née de maman togolaise et vous voulez nous parler d'un plat togolais que vous a enseigné votre maman, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Hum?
Le nom du plat, c'est le djankouma.
Ouais.
C'est un plat qui se fait à base de poulet et de maïs, de farine de maïs. On met le poulet dans de l'eau, on la fait bouillir avec tous les condiments qu'il faut. Après, quand c'est cuit, on en ressort le poulet de l'eau et on met dans de l'huile, on grille le poulet. Après, l'eau à laquelle ça a servi pour faire bouillir le poulet, on remet cette eau au feu et on remet la farine à l'intérieur et on fait la pâte de foufou.
Mmh, oui, donc ça parfume évidemment la farine. C'est de la farine de manioc?
Oui, c'est ça.
Ouais. Et qui est parfumée grâce au bouillon de poule.
Du poulet, voilà. Mmh. Après, quand c'est terminé, on découpe des oignons et de la tomate avec beaucoup de piment. Et c'est un plat qui se mange en communauté. Et c'est très bon quand on est ensemble pour le manger. Seul, on ne voit pas le goût. Et ce qui est le plus important, le plus intéressant, c'est quand on prend le poulet accompagné toujours avec de la pâte. Et puis, c'est un plat qui se mange sans sauce.
Ouais, ouais.
C'est très bon.
Effectivement, c'est vrai que seuls, les plats n'ont pas le même goût.
Ouais.
Cette recette, vous l'avez. Alors, ce poulet, ce qui est intéressant, c'est qu'il a deux modes de cuisson. Hein. Il a la cuisson au bouillon, en fait, et puis ensuite une cuisson frite, alors qu'il a déjà été attendri, hein, pour lui redonner un petit peu de croquant, j'imagine. Oui. Vous l'avez enseigné, vous l'avez transmise, cette recette à Libreville, vous vivez, ou bien vous cuisinez cette recette entre voisins togolais au Gabon?
On le fait entre voisins ici, mais ma petite amie, j'ai appris cette recette et elle réussit très bien parce que c'est facile, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à préparer.
Vous avez pris des notes, Marine, Louis, là?
Ouais, on va réécouter l'émission pour pouvoir le refaire.
Ça vous rappelle des recettes, le double cuisson, comme ça, du poulet?
Ouais, puis ça nous rappelle plein de choses, notamment dans le... Quand monsieur disait, je l'ai enseigné à ma petite amie pour qu'elle le fasse, c'est vrai qu'il y a l'histoire de la transmission des recettes entre hommes, femmes, mari, maman, belle-mère et belle-fille. C'est beaucoup, beaucoup le cas, notamment en Inde.
Anani, vous nous envoyez des photos, hein, qu'on pourra poster sur notre fil Facebook des 7 milliards. On les attend de pied ferme.
Il n'y a pas de souci, je le fais cet après-midi.
Merci de nous avoir appelés. Et puis alors, mettez-vous en cuisine hein, pour envoyer les photos au plus vite. 33 hein, 84 22 71 71. N'hésitez pas à nous appeler pour nous faire partager des recettes ou pour questionner nos globetrotters des assiettes des voisins du monde. Appelez-nous tout de suite si vous souhaitez passer à l'antenne, parce qu'en fin d'émission, on passera à une usine de karité. Ça sera un tout autre sujet. Retour dans 3 minutes, juste après le flash. Ne décrochez pas.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, nous passons aujourd'hui d'une assiette à l'autre, voire d'une feuille de bananier à l'autre avec des baguettes, trois doigts, peu importe l'outil, pourvu qu'on ait l'ivresse du palais et la magie de la rencontre des voisins. Marine Mandrila et Louis Martin, vous avez sillonné peut-être pas tout à fait le tour du monde, mais en tout cas 10 pays à la rencontre des assiettes des voisins. 10 pays, vous publiez Very Food Trip. Et quant à vous, les voisins, vous pouvez nous appeler. Il vous reste encore quelques minutes pour nous faire partager des recettes qui évoquent quelque chose de très fort chez vous. 33 1 84 22 71 71. Évidemment, le Népal est tristement de retour dans l'actualité. De nouveau aujourd'hui avec une réplique du séisme. Vous êtes passé par le Népal. Ça fait partie d'ailleurs des pays qui n'ont pas un patrimoine culinaire mondialement connu, comme l'Inde où vous êtes passé, l'Inde du Sud notamment, etc. Et pourtant, vous avez eu des souvenirs extrêmement forts. Vous me disiez pendant le flash que je vous demandais s'il y avait des repas qui étaient vraiment extrêmement long à préparer et vous me disiez oui au Népal.
Justement, ouais, au Népal à Katmandou, on a eu la chance d'être invité un jour par un ami Anoop le jour de la fête des mères, où toutes les femmes, les grand-mères, les filles, les petites filles, les belles filles se retrouvent en cuisine pendant presque 6 heures pour préparer 8 plats différents pour honorer les mères et les mamans. Donc on a commencé la journée en allant au marché, évidemment, comme toujours, en achetant énormément de choses, de la viande, du buffle, des herbes, beaucoup de produits différents, et voilà, et ça, on est suivi 6 heures en cuisine. On a rapporté une bonne partie des 8 recettes qu'on a découvertes ce jour-là. Voilà, une soupe de pousses de bambou,
beaucoup de choses à base de buffle hein, c'est
absolument.
Ça, buffle aux épices, viande de buffle hachée aux épices, etc.
Ouais, il y a beaucoup, on mange beaucoup de buffle au Népal.
Pourquoi c'est si long à préparer?
Alors pourquoi c'est si long? Je pense que c'était parce qu'il fallait honorer les mères. Donc donc du coup l'honneur passait par un effort qui était mis dans la cuisine. Et c'était des recettes qui étaient très intéressantes dans le sens où le Népal c'est un tout petit pays qui est coincé entre deux géants qui sont l'Inde et la Chine, et on retrouvait à la fois, même si c'est pas un pays qui a un patrimoine culinaire extrêmement diversifié, on retrouvait à la fois des influences indiennes dans les recettes avec beaucoup d'épices du nord de l'Inde, et en même temps des influences chinoises, notamment les pousses de bambou qu'on mange beaucoup en Chine.
Et puis c'était un jour de fête où le temps est un peu arrêté et suspendu, et où on se dépêche pas de cuisiner, où on prend son temps, où on partage, on discute, on apprend, on transmet aux filles et aux petites filles. Donc
alors vous avez principalement, c'est vrai, sillonné des pays très connus pour leur patrimoine culinaire, mais vous vous êtes attaché à rechercher des recettes beaucoup moins connues. Je sais pas si on prend le Liban, par exemple.
Mais en fait, ce qu'on a vraiment cherché à faire, c'est à découvrir des recettes quotidiennes et familiales. C'est-à-dire que quand on rencontrait nos hôtes, on leur disait surtout ne faites pas quelque chose d'exceptionnel. Si aujourd'hui on doit manger les restes, on mange les restes avec vous. C'est ça qui nous intéressait vraiment.
Ils comprenaient bien le concept. Enfin, je veux dire, c'est parce que quand on a des hôtes, des étrangers de passage, justement, le réflexe culturel veut qu'on mette les petits plats dans les grands.
Absolument. C'est vrai que souvent, on avait quand même des repas un tout petit peu différents que les restes.
On n'a jamais mangé les restes stricto sensu.
Non, mais évidemment, nos autres comprenaient très bien ce qu'on venait chercher, ce qu'on venait apprendre avec eux.
Il y a des cuisinières ou des cuisiniers qui ont refusé de livrer leurs secrets.
Alors, il y en a qui étaient réticentes au fait de donner les recettes. Mais à chaque fois, on a réussi à récupérer la recette parce qu'on était en fourneau avec la cuisinière. Alors peut-être que derrière, on rajoutait un ou deux ingrédients dans notre dos.
Ouais,
on prenait des notes. Mais par contre, plusieurs fois, on est tombé sur des enfants qui étaient absolument ravis qu'on soit là parce que pour eux, c'était l'occasion de récupérer la recette que la maman gardait secrète et ne voulait pas leur donner, uniquement pour pouvoir les faire venir à la maison tous les dimanches.
Il y a une mère de famille comme ça qui tient ses enfants au Mexique et puis
chez
au Pérou aussi, non?
Ouais.
Au Mexique.
Non, c'est au Pérou.
Ah non, c'est au Pérou,
oui,
pardon,
au Pérou,
je me trompe. C'est au Pérou, chez les Rosales, absolument.
Ouais. Et donc là, effectivement, c'est l'amour d'une maman pour ses enfants grâce à ses petits plats et à un secret jalousement gardé.
Exactement. Elle nous disait heureusement que sa fille nous disait heureusement que vous vous êtes là, comme ça je peux connaître, découvrir la recette de ma mère.
Sinon qu'elle emporterait dans la tombe.
Exactement.
Ou presque. Le Pérou, pas connu non plus finalement pour son patrimoine culinaire.
Alors c'est un pays qui est assez peu connu en France pour la cuisine, mais qui commence à se développer, à développer sa notoriété en Amérique latine, donc qui est aujourd'hui je pense reconnu comme étant le pays au sein de l'Amérique latine avec le plus beau patrimoine culinaire, qui est reconnu aux États-Unis. Il y a beaucoup de grands restaurants péruviens qui...
Qu'est-ce qu'on sert alors dans cette cuisine péruvienne
Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà au Pérou, on a donc la côte, la cordillère des Andes et la jungle, donc déjà une diversité de produits incroyables. Et en plus de ça, au Pérou, il y a énormément d'influences chinoises, japonaises, juives, espagnoles, brésiliennes, ce qui fait qu'il y a un tissu de culinaire absolument incroyable. Ils ont même créé, les Péruviens ont inventé un type de cuisine qui s'appelle la chifa. Qui est vraiment une fusion, une vraie cuisine fusion entre la cuisine chinoise et la cuisine péruvienne. Je ne sais pas combien de millions de plats on peut déguster au Brésil, mais voilà, au Pérou.
Vous avez un souvenir, quelque chose qui vous a marqué, un plat en particulier?
Oh, on a mangé tellement de choses. Déjà, c'est le pays du ceviche, déjà, même s'il y a une grande rivalité entre le Chili et le Pérou.
Même entre le Mexique, entre tous les pays côtiers.
Alors, ceviche.
Le ceviche, qui est donc une préparation de poisson cuit dans le citron, agrémenté de beaucoup de choses, de ce qu'on veut, d'avocat, d'oignons, d'herbes, de plein de choses, de mangue, absolument.
Oui, c'est un plat très très familial.
Absolument.
Vos rencontres, finalement, vos plus chères et incroyables rencontres humaines autour d'un plat, quelles seraient-elles si on s'éloigne des papilles
On a eu tellement de rencontres tellement fortes avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout, évidemment des inconnus qui nous ont aussi contactés sur internet. Je pense à Bianca, à Javier au Mexique, je pense à Bianca au Brésil, qui nous a écrit sur internet en nous disant j'ai vu votre projet, venez chez moi, j'ai tellement de choses à vous faire découvrir.
Vous vous attendiez à cet enthousiasme autour de la cuisine, autour des plats?
On savait pas vraiment où est-ce qu'on mettait les pieds quand on est parti, c'est-à-dire qu'on avait cette idée, on sentait que c'était une bonne idée, on sentait qu'on allait vivre une expérience exceptionnelle, mais on s'attendait pas à être accueilli à bras ouverts dans tous les pays dans lesquels on a été. Chaque fois quand on arrivait dans un pays, on allait sur le marché, armé de notre caméra, et on discutait avec les personnes qui faisaient leurs courses, on leur demandait comment est-ce qu'ils cuisinaient tel ou tel ingrédient qu'on ne connaissait pas, ou qu'on connaissait mais qu'on cuisine différemment en France. Et régulièrement, on était invités, avec un grand sourire et beaucoup d'hospitalité, à cuisiner le plat à la maison avec notre hôte.
Alors, Oumar, qui prend l'émission en cours de route, la poste un message sur Facebook, demande la liste des pays que vous avez visités, enfin plutôt les assiettes que vous avez visitées, enfin assiettes, pas forcément assiettes d'ailleurs, vous avez mangé dans tous les types de plats, non?
Oui, absolument.
Y compris sur les feuilles de bananier, notamment en Asie, etc. On va redonner peut-être la liste. Mexique, Pérou, Brésil, pour le continent
Liban,
Amérique latine.
Liban, Inde, Népal, Chine, Vietnam, Thaïlande, Japon. Voilà. Le reste.
On n'a pas parlé du Japon.
Ah là là. Non, le Japon,
hors
ça
des sentiers
été...
battus, hors de ce qu'on connaît en Europe, en Amérique, où il y a des restaurants japonais partout dans le monde.
Absolument, mais rien à voir. On mange pas du tout ce qu'on peut manger à Paris dans les restaurants japonais. Au Japon, on mange au final des choses assez simples, très très saines, très diététiques, toujours très harmonieux, avec voilà des harmonies même dans les goûts et dans les saveurs. C'est toujours très beau. Les tables sont soigneusement préparées. Il y a un rituel spécial autour de la cuisine. Enfin voilà, tout est vraiment tout le moment du repas et de la cuisine est assez sacralisé au Japon.
Est-ce que vous avez le sentiment, je pense notamment au Mexique, où ce qu'on appelle la junk food, le Mexique est un peuple qui a pris énormément de poids ces dernières années. Je crois que c'est d'ailleurs aujourd'hui ce sont les records d'obésité avec des sodas extrêmement sucrés partout qui viennent d'Amérique du Nord. Est-ce que vous avez parfois eu le sentiment qu'il y avait des choses qui étaient en train de se perdre, des patrimoines en train de disparaître?
Je crois pas parce que les Mexicains sont très très fiers de leur cuisine, sont très fiers de leur gastronomie, ils en font un symbole fort d'identité régionale mais aussi nationale. Et j'ai pas le sentiment que la cuisine mexicaine se perde, d'autant plus qu'elle est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc elle est protégée par ce biais. Mais à chaque fois on est tombé sur des personnes qui étaient très fiers de leur patrimoine et qui voulaient le transmettre, et qui voulaient d'ailleurs nous le transmettre à nous.
Et surtout, on s'est vraiment attaché à justement ne pas aller vers la junk food et le fast food, mais justement ce qu'on disait tout à l'heure sur la slow food et la tradition, le savoir-faire et la transmission des savoirs. Donc on a...
Mais alors vous, qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui maintenant de toutes ces recettes dans votre cuisine de tous les jours?
Bah, c'est vrai qu'on cuisine beaucoup plus de cuisine du monde. Depuis qu'on est rentré assez instinctivement, on mange beaucoup moins de viande qu'on mangeait avant. C'est naturel, c'est instinctif.
Et du coup, vous prenez plus de temps ou pas? Parce que là, toutes les recettes, quand même, il n'y a rien de franchement très rapide en rentrant du boulot le soir.
Si, il y a des choses, il y a des recettes très simples. Je pense à une salade de pommes de terre japonaise qui est extrêmement simple. Au Japon,
avec
c'est
du jambon et je sais pas.
Avec du jambon, de la moutarde, de la ciboulette. Voilà, ce sont des choses assez simples. Pareil, des recettes de chirashi assez simples, ou même des recettes libanaises qui paraissent compliquées parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire, mais qui sont très rapides.
Ah bah attendez, la recette libanaise, il y a quand même les petits pâtés là, il y a des très belles photos dans votre livre d'ailleurs.
C'est pas si compliqué.
Le houmous, c'est pas si compliqué à faire, ça prend 10 minutes.
À base de, purée de pois chiches.
De pois chiches, exactement, et de tahiné. Donc non, on a vraiment une palette de recettes quotidiennes, des plats de fête, des plats qu'on mange pour des occasions spéciales. Il y a un peu de tout, et puis un peu de recettes insolites aussi qui sont compliquées à faire, comme le serpent. Mais bon, si on trouve un serpent dans son jardin, on peut essayer de la faire, il n'y a aucun problème.
C'est un vrai livre non censuré, en tout cas.
C'est ça. Et que vous inspire la paresse quand même immense aujourd'hui de préparer des repas dans les pays très urbanisés où l'industrie agroalimentaire quand même a un peu fait mourir la cuisine de tous les jours faite maison?
C'est paradoxal parce qu'à la fois, évidemment, on observe cette tendance et on le sait tous, et en même temps, on observe un vrai retour aux racines, à cette slow food, aux produits de saison, avec le développement des AMAP et du locavorisme.
Où il y a des paniers qui sont préachetés à des agriculteurs pour qu'ils aient un revenu régulier en France. Je voudrais vous lire le message d'Henri Joël qui a été posté du Tchad sur le fil Facebook. Un plat de l'Ouest, nous dit Henri Joël, la sauce sans sel. C'est le mbarmbi, j'espère que je prononce bien, je suis pas spécialiste de cuisine, préparé à base de feuilles de melon. Vous connaissez ça, de la cuisine à base de feuilles de melon?
Pas du tout.
Un peu de haricots et puis une bonne dose de pâte d'arachide. Voilà, on n'a pas tout à fait la recette complète, on va peut-être nous l'envoyer, hein, Henri Joël. Merci en tout cas. Ou Kojo à Lomé au Togo, le djangoumin dont parlait l'auditeur précédent, c'est encore meilleur avec de la farine de maïs. Oui, il nous disait que c'était sinon à base de farine de manioc. Farine de maïs pour faire le foufou et encore mieux, la griller légèrement à la poêle avant de servir. Ça donne un petit goût de brûlé absolument délicieux. Ça va être dur de résister à 12h44 heure de Paris, à l'heure où nous parlons en première diffusion d'émission. Vos projets pour l'avenir?
Alors évidemment, on se laisse arriver à une saison 2, évidemment, pour aller découvrir tous ces plats qu'on connaît pas encore. On a écrit notre livre, on a passé ces derniers mois à écrire notre livre.
Saison 2, donc pour les petits feuilletons vidéo.
Et là, on lance la web série de 10 épisodes de 15 minutes sur chacun des pays qu'on a visités, où on retrouve les ambiances en cuisine, les rencontres avec les habitants et toutes ces ambiances.
Et qui permet de se plonger dans l'ambiance des repas et d'aller au-delà des recettes qu'on a dans le livre. Donc, dans le livre, on a les recettes, les histoires des plats, les histoires des ingrédients. Et dans la web-série, on retrouve toute l'atmosphère et toute l'ambiance qu'on a vécue. Donc, pour permettre de voyager au travers de la cuisine.
Exactement. Ouais, les photos parfois un peu marrantes, hein. Vous avez souvent la bouche pleine, d'ailleurs.
Forcément.
Et donc prochaine destination, vous savez déjà?
Non, on ne sait pas encore, mais pour le coup, on mettra l'Afrique sur notre itinéraire.
Il reste le continent africain, exactement. Effectivement. Vous pouvez peut-être, c'est le moment de passer un message, hein, si vous voulez récolter quelques contacts. On peut vous écrire.
Absolument, sur notre site internet, Food Sweet Food. On reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'appels aussi. Et évidemment, on est toujours très curieux et on lancera un grand appel au moment venu de notre second voyage.
Ou via notre page Facebook aussi.
Absolument.
Et le livre, il pèse lourd, hein, je peux vous dire, avec toutes les recettes qu'il y a dedans. Very Food Trip, c'est aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission?
Bien sûr.
On quitte la cuisine, mais pour rester finalement assez proche des produits offerts par la nature, reportage dans une usine de karité à Dakar. Ça sera juste après la Nena Soyo. très jolie voix de la brésilienne Dom La Nena. Après le tour du monde des assiettes, nous partons à présent dans une petite usine de produits cosmétiques à Dakar, les laboratoires Bioessence, avec à sa tête une jeune executive woman, Mam Hadidienne, diplômée en France d'une grande école de commerce, d'ailleurs l'EDEC Lille. Elle a commencé sa carrière très classiquement dans le conseil informatique chez Capgemini, et puis après un séjour de formation aux États-Unis, elle se lance dans la fabrication haut de gamme de karité au Sénégal. Aujourd'hui, elle exporte plus de 90% de sa production vers l'Amérique du Nord, vers l'Europe. Elle emploie 20 personnes à Dakar dans l'usine du quartier de la Sonépi et environ 4000 ramasseuses de karité, baobab et autres prodiges de la nature au Sénégal.
Bioessence est née d'une envie, celle d'une Africaine qui a grandi en France. J'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, mais j'avais besoin de sentir qu'on travaille pour autre chose que l'argent et la réussite personnelle. C'est le vrai retour aux sources parce que j'ai essayé de fabriquer en Afrique, par des Africains, des produits pour le monde. Livrer au monde les secrets de beauté d'Afrique, le plus naturellement possible. On essaie de préserver tous les principes actifs de nos produits, de ne pas décolorer, de ne pas désodoriser. Nos extractions d'huile se font à froid. Notre production de crème se fait sous vide, à froid, pour que, au maximum, le produit fasse des effets. On est dans la cosmétique pharmaceutique. Vous ne pouvez pas utiliser nos produits sans voir de résultats. Actuellement, elles sont en train de faire du savon.
Ça ressemble un peu à des pâtes alimentaires,
exactement,
d'ailleurs, à des spaghettis. Là, on est dans l'emballage, hein.
Traditionnellement, à la main, avec du Kraft là orange, avant d'avoir l'étiquette complémentaire. On essaie au maximum de faire travailler les gens ici et de ne pas tout mécaniser. On a des unités de transformation dans plusieurs communes d'arrondissement de Kédougou. Quand on a commencé, par exemple, sur le Baobab en 2008, on trouvait les femmes avec une bassine. Elles vendaient la bassine à 1000 francs, sans aucune valeur ajoutée. On leur a demandé de transformer. On les a équipées de pilons, de masques, de bonnets, de gants, de bottes. À l'époque, en 2008, on était déjà presque un millier de femmes. En leur faisant transformer le produit, on avait fait une multiplication par 4,5 de leurs revenus. Donc, c'est 450% d'augmentation de revenus en une saison. C'est juste extraordinaire. Mais c'est pour ça que je suis rentrée aussi.
Est-ce que c'est facile de faire ça avec des femmes qui ne sont pas allées à l'école, qui vivent dans des conditions très difficiles, d'exiger de la qualité, d'exiger des process? Kédougou, vous ne pouvez pas y aller toutes les semaines.
Exactement. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes à Dakar, vous voyez des mouches. Moi, je suis allée en Casamance, à Kédougou. Vous mangez des mangues, vous n'avez pas de mouches parce que c'est propre. C'est extraordinaire. Et les femmes sont peut-être pas alphabétisées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas intelligentes. Et surtout, elles ont un sens pratique extraordinaire. Et leur dire, on part d'une bassine à 1000 francs, maintenant vous avez 4500 francs, en faisant avec la formation qu'on leur a donnée, les pratiques qu'il faut pour obtenir un produit de qualité, elles ne réfléchissent pas à deux fois.
C'est extrêmement dur comme travail.
Ah, c'est un travail qui est pénible, qui est peu productif parce que c'est effectivement des graines qui sont très 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 dures. On essaie de vraiment toujours améliorer les conditions de travail des femmes. Je peux vous dire que la première année, quand on a emmené la presse à Baobab, bon, c'est une machine qui est censée fonctionner 24 heures sur 24. On l'a installée le matin à 9h. À 18h30, je suis partie. Et à 19h30, on m'a appelée pour me dire qu'on avait cassé la vis sans fin, qui est fait avec de l'acier trempé. C'est le quotidien de tous les industriels. Mais ici, en Afrique, l'accès à tout est difficile. Il n'y a pas de plateforme d'achat. Il faut organiser, il faut se déplacer. Il faut créer de la base zéro. Non seulement inventer, mais avoir une ingéniosité. Vous regardez les machines. Elles sont faites ici, mais c'est des machines qui sont entièrement en inox.
Vous fabriquez ces machines
exactement.
Avec travailler le karité de manière naturelle, mais en même temps de façon mécanisée, finalement, oui. C'est assez nouveau.
C'est nouveau, mais c'est une demande de l'industrie, parce qu'il faut des produits qui sont standardisés, qui sont stables. Donc on fait travailler des techniciens localement, on fait travailler des femmes quand on peut. L'impact social pour nous est très important, et l'impact environnemental également. Voilà, c'est une extraction de karité. Donc vous avez trois phases. La phase aqueuse qui se fait là, tout ce qui se mélange à l'eau. Voilà. La phase huileuse et la partie là-bas, c'est complètement sous vide.
Pour les voisines qui nous écoutent, comment reconnaître un bon karité quand on va sur le marché?
Alors, complètement jaune, en général, on y mélange des choses, c'est pas bien. Complètement blanc, comme disent nos sœurs maliennes, elles y mettent du sel, c'est de la soude, c'est pas bon non plus. Le bon karité, déjà, ne doit pas puer. Quand l'odeur vous rebute, c'est que c'est de la rance. Ensuite, il est entre le beige et le jaune très clair. Entre le beige et le jaune paille. Le karité extrait chimiquement est tout blanc. C'est pas bon. C'est bon à manger.
La qualité.
Granuleux, c'est pas bon. Il doit être onctueux. Quand il est trop mou, c'est pas bon non plus parce que en général, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et l'eau, dans un cosmétique, c'est la vie. Et la vie, ça veut dire la bactérie. D'accord? Le karité s'extrait avec de l'eau, en général. Mais il faut pas que ce soit trop mou. Ils font à température du corps, de toute façon. Et un bon karité, de toute façon, vous le verrez à l'utilisation. Parce que les effets sont juste extraordinaires. En dehors des phytonutriments, vous avez énormément de vitamine E. Donc ça, c'est pour la régénération cellulaire. C'est pour tout ce qui est douceur de la peau. Élasticité, surtout. Qui dit élasticité, dit ride aussi. Quand ça passe sous l'épiderme, ça devient de la vitamine A. Donc ça, c'est...
Vous en mettez sur le visage, par exemple?
Tous les jours, des cheveux jusqu'aux pieds, je mets du beurre de karité. Bon, j'ai un produit qui s'appelle le body butter, je le mets. En fait, c'est un mélange de karité avec du jojoba, de l'amande douce, du baobab pour le rendre un peu plus onctueux. Et j'en mets tous les jours.
Aujourd'hui, les Africains de la classe moyenne émergente dans les villes africaines ne rêvent que d'une chose, c'est d'acheter des produits de parapharmacie, généralement made in France.
Oui.
Qu'est-ce que vous leur dites?
Je dis que tout ce qui nous soigne et tout ce qui est bon pour nous se trouve à proximité. Quand on parle des bains de lait de Nefertiti, on sait maintenant que c'était pas du lait, que c'était de l'aloe vera. Donc on a de l'aloe, on a qui est excellent d'ailleurs pour la cicatrisation, de même que le jatropha. On a le dattier du désert, des produits magnifiques comme le moringa, le karité, le baobab. C'est pas que les produits européens sont pas bons, ils sont très bons, mais on a des choses à côté.
Pourquoi aller chercher si loin?
Exactement.
Il suffit de passer par votre usine.
Qui sont formidables.
Quand je vous entends raconter ça, les machines qu'on achète, qu'on transporte, des centaines de kilomètres, et puis tout casse le premier jour. C'est Mam Radidienne, vous êtes une aventurière de l'industrie.
Je suis une tête brûlée, ça c'est sûr. Mais je pense que dans l'entrepreneuriat, de toute façon, il faut oser, il faut être persévérant, endurant. Mon père me disait toujours un pas après l'autre. Ça veut dire énormément de patience. Moi, j'ai commencé en me disant, mais au bout de 2 mois, je voulais rentrer en France. Je dis bien rentrer. Mais papa me disait, non, un pas après l'autre. C'est comme si tu gravis une échelle. Si tu vas très vite, si tu dois chuter par un faux pas, la descente sera très difficile. Alors que si tu t'assures que ta marche est solide, ce n'est que plus facile de monter. Donc, j'ai appris la patience.
Allez, bon vent à Mam Radidienne, portrait d'une jeune femme industrielle au Sénégal dans le secteur de la cosmétique pour des produits made in Sénégal. J'ai testé, je peux vous dire que ça vaut la peine. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les infos sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins, Marine.
Déjà, moi, je retiens la recette pour déceler le bon karité du mauvais. Et non, je trouve que c'est un magnifique exemple et modèle d'entrepreneuriat et d'aventure. Et voilà, étant dans l'impact sociétal qu'environnemental, ce qu'elle racontait, c'est assez exemplaire.
On n'a qu'une envie, c'est de se ruer sur du beurre de karité,
ouais,
sans mettre de la tête aux pieds.
Vous savez qu'il y en a dans le chocolat, j'ai appris, je ne savais pas,
Oui.
ça peut rentrer dans la composition de certains produits de l'agroalimentaire.
Ah, voilà, c'est ça.
Merci en tout cas d'être passé par le studio de 7 milliards de voisins,
merci
Marie Madrila, Louis Martin. Ça s'appelle Very Food Trip, hein, pour retrouver toutes vos recettes. Et puis alors, saison 2, donc ça sera rendez-vous sur le continent africain.
Absolument.
Nous ferez découvrir les assemblages connus et moins connus. Merci à vous, les voisins, pour vos témoignages sur Facebook et au téléphone. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Jonas Malé-Solars, Romain Dubrac. Pour toutes vos réactions, vous pouvez continuer à nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Sans oublier page Twitter et Facebook. Et puis également, réécouter toutes nos émissions en podcast sur rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. On mettra peut-être d'ailleurs une recette piquer dans Véric Food Trip. Demain, 7 milliards de voisins. Émission spéciale Ville intelligente, ultra connectée. Singapour, Shanghai, mais aussi Nice. Vous pourrez poser toutes vos questions, d'ailleurs, dès cet après-midi sur la page Facebook. Merci à vous tous, les voisins et les voisines, pour votre fidélité. On se retrouve demain sur RFI. 7 milliards de voisins, même heure, même endroit.